L'Institut Montparnasse, think tank de la MGEN, dont la mission est notamment de réfléchir à l'évolution de la protection sociale solidaire, se penche sur la question de l'avenir du modèle mutualiste. Dans ce premier numéro spécial du podcast Bâtissons des futurs solidaires, nous accueillons Edgar Morin, éminent philosophe et sociologue, dont les travaux et la pensée nourrissent et irriguent les questionnements et réflexions de l'Institut Montparnasse. L'Institut Montparnasse étant le premier mécène de la Fondation Edgar Morin, fondation placée sous l'égide de la Fondation de France. Edgar Morin est né le 8 juillet 1921 sous le nom d'Edgar Naoum. Il est l'un des derniers grands intellectuels français à avoir traversé le XXe siècle et à pouvoir nous éclairer sur les enseignements à tirer des grands événements qui l'ont constitué. Un passé au sein de la Résistance, dans laquelle il entre en 1943, une adhésion au Parti communiste qu'il critique et quitte avant beaucoup d'autres, il est le penseur de la complexité qui vise à démontrer que le savoir, les sciences, ne doivent pas être des blocs isolés. La vie, c'est le mouvement, les hybridations, les hasards, tout ce qui se tisse ensemble. Phénomène qu'il nomme la complexité et la transdisciplinarité. Au cours des dernières décennies, diverses causes l'animent, causes qu'il transforme en autant de combats. L'écologie, l'Europe, ainsi que toutes les voies qui mènent au développement de la citoyenneté et de la solidarité. Il est l'auteur de centaines d'articles et de dizaines de livres. Son œuvre majeure est La méthode, composée de 6 volumes. Ses deux derniers ouvrages parus en 2020 s'intitulent « Changeons de voie, les leçons du coronavirus » avec la collaboration de Saba Abou Essalam chez De Noël et « L'entrée dans l'ère écologique » aux éditions de l'Aube. Dans ce premier numéro spécial du podcast Bâtissons des futurs solidaires, Edgar Morin évoque la vitalité des solidarités et les meilleures façons de les entretenir. Par ailleurs, il défend l'idée que c'est sur la force de ces solidarités que la mutualité doit pouvoir s'appuyer pour envisager l'avenir. Enfin, il évoque la nécessité pour tous d'apprendre à vivre avec l'incertitude. Je suis très honorée de pouvoir réaliser cette interview pour l'Institut Montparnasse. Alors, la première question, Monsieur Morin, évidemment, elle porte forcément sur la mutualité. J'aimerais que vous me parliez des valeurs mutualistes et de ses vertus. Comment définir ces valeurs mutualistes ?
La valeur essentielle, c'est la solidarité et l'entraide, qui sont presque synonymes. Je veux dire que... Mais alors, disons, pour ne pas dire ce mot d'une façon abstraite en général, il faut quand même rappeler que c'est au cours du 19e siècle, avec le développement du capitalisme et du profit qui est de cette époque, c'est au cours du 19e siècle que naissent en même temps les mutuelles, les coopératives, et même avec beaucoup de difficultés, parce que il y a l'autorité patronale, les syndicats. Bon, 3 types d'actions qui sont fondées, évidemment, sur la solidarité. Alors, mais donc, par rapport à, disons, un univers où de plus en plus le profit, et le profit aussi bien avec l'égoïsme que ça comporte, tout ceci, évidemment, suscite en réaction ce mouvement de solidarité qui caractérise les mutuelles. Et alors, ce que je peux dire aussi, c'est que les mutuelles se sont développées aussi par rapport justement à des risques. Ce n'est pas par hasard que, en ce qui concerne la santé, évidemment, il y a la gêne, ou la maladie, le mal-être est un risque permanent pour toute personne. Donc, les mutuelles s'est développé dans le problème de la santé, qui est un risque. Et puis, quand il y a eu les automobiles, les transports, évidemment, là aussi, les risques liés accident ou panne, tout ceci, ont favorisé justement l'essor de la MAIF, qui est tout à fait exemplaire dans ce domaine. Donc, vous voyez, c'est une solidarité, mais pas abstraite, par rapport, disons, à des risques et aussi par rapport à un monde qui cherche avant tout le profit. Donc, c'est le côté aussi non lucratif qui caractérise la mutuelle, à la différence d'une coopérative qui, elle, va unir des gens qui produisent quelque chose et qui courent évidemment des risques, mais qui peuvent avoir des bénéfices, n'est-ce pas ? C'est ça qui me semble important d'indiquer. Et j'ajoute que depuis le 19e siècle, et surtout dans les dernières décennies, il y a eu un véritable déchaînement du profit dans des domaines où il n'était pas tellement important. Par exemple, l'ubérisation est un phénomène typique de notre époque récente. Et je pense que plus ce monde du profit et ce monde aussi de l'incertitude que favorise la théorie dominante de la concurrence, surtout sous sa forme néolibérale, puisque dans le fond, le néolibéralisme, ce n'est pas seulement les vertus de la concurrence, mais c'est aussi le fait qu'il faut réduire l'État à son rôle de gendarme et supprimer les services publics. Là aussi, les services publics ont une fonction sociale très, très importante. Par exemple, l'hôpital est un lieu de soins, mais de solidarité aussi entre les soignants et les soignés, d'ailleurs. Le Covid le montre assez. Donc, si vous voulez, nous avons aujourd'hui un grand problème humain de solidarité, parce que plus se déchaîne, disons, cette soif du profit et cette hégémonie de l'argent, plus les solidarités traditionnelles se dégradent, disparaissent, et nous avons besoin de nouvelles solidarités.
Vous avez évoqué, en termes de valeurs de solidarité, donc l'aspect non lucratif, vous avez évoqué aussi le risque, forcément. Il y a une dimension qui me semble importante, c'est celle de la prévention. Est-ce que cette question de la prévention est bien toujours présente, selon vous, dans les valeurs mutualistes ?
Écoutez, moi je pense que la prévention doit entrer de plus en plus, évidemment, dans la pensée, l'action, disons, des mutuelles ou de toutes les entreprises solidariste, parce que il est évident que dès qu'on parle de lutte contre les risques, il s'agit pas seulement des risques qui arrivent, mais aussi des risques qui peuvent arriver. Or, nous sommes dans déjà l'humanité a toujours vécu dans l'incertitude, mais nous, dans notre siècle, nous vivons des incertitudes très particulières. Les incertitudes très particulières, par exemple, l'incertitude qu'a portée la Covid, qui, en dépit du fait qu'il sévisse depuis plusieurs mois, conserve beaucoup d'inconnus. La preuve, c'est que c'est presque 8 mois après, on ne sait pas très bien s'il va durer, s'il va s'amplifier. Donc, problème des incertitudes, nous avons l'incertitude de la dégradation de notre planète, de notre biosphère qui, en retour, dégrade notre vie, notre civilisation. Donc, là aussi, le problème aujourd'hui est la prévention. Je crois que les systèmes de prévention dans notre pensée sociale, politique, ne sont pas assez développés. Il y a même des carences de la prévention, ce qu'on a vu dès le début de l'épidémie, du point de vue des lits d'hôpitaux, du point de vue des masques, du point de vue des tests. Donc, si vous voulez, la prévention n'est pas quelque chose qui prime avec prédiction, c'est-à-dire elle n'est pas infaillible. La prévention, c'est par rapport à un possible, mais qui n'est pas certain. Donc, ça oblige de penser et de travailler dans l'incertitude, de faire des paris, de faire des scénarios, de pouvoir varier sa stratégie en fonction des événements. Donc, si vous voulez, il y a un art de la prévention qui remplace ce qui était la prédiction, parce que vous aviez eu au siècle dernier des instituts de futurologie qui pensaient que le futur était sur les rails et qui prédisaient ce qui se passerait après. Même encore, un peu avant ces derniers temps, il y a encore des prédictions que sera l'éducation en 2050 et que sera ceci. Non, à mon avis, faut pas prier. La prévention est un art. Et je pense que là aussi, c'est à introduire dans les organisations solidaires.
Alors, vous avez écrit une très, très jolie phrase dans un de vos anciens ouvrages. Vous avez écrit « On n'élimine pas l'incertitude, on négocie avec elle ». C'est une phrase qui est en pleine actualité.
C'est-à-dire que, vous savez, une de mes formules, c'est que vivre, c'est naviguer dans un océan d'incertitude, mais dans lequel il y a des archipels et des îles de certitude sur lesquelles on peut se ravitailler. Autrement dit, on n'est pas dans le noir absolu, on n'est pas dans le quitte ou double, on n'est pas dans un pur jeu de hasard. D'ailleurs, même dans les purs jeux de hasard à la roulette, les statistiques à la longue montrent que l'on peut prévoir, disons, la sortie des chiffres. Donc, mais malheureusement, nous sommes dans un flux historique et vous ne pouvez pas faire aucune prédiction statistique en ce qui concerne le futur. Donc, c'est vrai que la prévention est une chose qui nécessite là aussi, moi, ce que j'appelle une pensée complexe. Parce qu'une pensée complexe, qu'est-ce que c'est ? C'est une pensée qui essaye de voir la multiplicité des facteurs qui peuvent jouer dans un ensemble. La mondialisation, c'est un phénomène technique, c'est un phénomène économique, c'est un phénomène sociologique, c'est un phénomène aussi religieux, c'est un phénomène psychologique, c'est un phénomène qui touche à tout. Mais toutes ces choses sont séparées en disciplines, et il est évident que pour comprendre... D'ailleurs, la pandémie a été une belle leçon de choses, parce qu'on a vu que dans le fond, tout était relié dans cette mondialisation, du point de vue évidemment techno-économique, que l'on pouvait communiquer à chaque instant d'un bout du monde à l'autre, mais que cette communication n'avait créé aucune compréhension et que la mondialisation n'avait créé aucune solidarité, puisque tous ces liens qui existaient, bon, un grand nombre se sont brisés parce que les États sont refermés sur eux. Donc, vous voyez, il faut comprendre, prendre ces exemples pour essayer de comprendre l'arrivée de l'imprévisible, si on en tire des conséquences, nous enrichit. Ça veut dire qu'on ne pourra pas prévoir, évidemment, les futures catastrophes, mais on peut prévoir l'imprévisible. On peut s'attendre à l'inattendu. Ça, c'est quand même une attitude d'esprit très nécessaire.
Revenons au modèle mutualiste et parlons, si vous voulez bien, Monsieur Morin, de ses vertus. Elles sont toujours vivaces, justement dans la situation que nous sommes en train de traverser.
Vous savez, moi je pense que dans tout être humain, il y a deux logiciels, si vous voulez, antagonistes. L'un, c'est le logiciel du moi-je, c'est-à-dire l'égocentrisme. Je suis au centre du monde, au centre de mon monde. Et je dois m'occuper de moi. Bon, cet égocentrisme est vital quand même, parce qu'il faut qu'on se nourrisse, qu'on se défende, qu'on se protège. Mais, fort heureusement que dès la naissance, vous avez l'autre, qui est le nous. C'est pas le moi-je, c'est le nous, c'est le tu. Et sans cette relation avec autrui, relation d'amour qui commence avec la mère, avec les frères, les sœurs, c'est une relation de tendresse, puis d'amitié, et sans la communauté, c'est-à-dire la communauté qui implique toujours responsabilité et solidarité. Ce sont les deux vertus fondamentales sans lesquelles tout se dégrade. Donc, nous avons tous cette possibilité de solidarité, mais chez chacun, elle est endormie, elle est atrophiée, et que chez d'autres, qui sont en général les humanitaires, qui sont Médecins sans frontières, Sœur Teresa, etc., vous avez la pulsion de solidarité très, très, très forte. Ce que là, je veux révéler, au moins le premier confinement, c'est que, alors que la solidarité s'était endormie dans notre société, et qu'il n'y avait que quelques mutuelles, si vous voulez, ou associations, beaucoup d'associations, mais non pas fondamentalement dans la société, la solidarité s'est endormie. Mais ce qui est intéressant, elle dormait, mais elle n'est pas morte, parce qu'il y a eu spontanément des solidarités de voisinage, rendant service à des gens impotents ou invalides, des jeunes qui faisaient apporter des plats à des gens qui étaient démunis, ils n'avaient pas les moyens. Enfin, il y a eu, et puis sans parler du dévouement extrême des soignants, infirmières, docteurs, enfin, il y a eu une poussée de solidarité, mais elle est retombée. Et ça veut dire qu'il faut l'entretenir. Et il faut l'entretenir justement par les actions, d'abord c'est par une morale, par une éthique propre de solidarité et responsabilité, mais aussi par une action politique. Moi, ça fait 30-40 ans que je prenais des maisons de solidarité, par exemple, pas pour remplacer ni les SAMU ni la police, mais pour aussi des espoirs, des solitudes. Le nombre de solitudes a été chiffré en France, c'est absolument incroyable, des vieux, des femmes, des jeunes, et ces gens-là, ils ont besoin de réconfort. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je parlais de maison de la solidarité, où il y aurait une sorte de staff, d'équipe prête à l'aide compassionnelle pour ces cas de désespoir, de tristesse infinie, des gens seuls. Et puis il faut dire aussi que l'avantage d'une mutuelle, disons, c'est ce qu'on appelle, ce que en sociologie on appelle la reconnaissance. La reconnaissance, c'est pas simplement, ça veut pas dire qu'on dit merci à quelqu'un qui vous fait un cadeau. La reconnaissance, ça veut dire être reconnu comme être humain dans sa plénitude par autrui. Par exemple, si dans la rue, vous croisez quelqu'un dans le couloir de votre immeuble sans lui dire bonjour, c'est qu'il est transparent, qu'il n'existe pas. Dire bonjour à quelqu'un, c'est dire tu existes. Bon. Et nous avons besoin tous d'être reconnus. Et une mutuelle, l'avantage qu'elle a, c'est que ses membres sont reconnus parce qu'ils participent, disons, à une aventure commune. Et donc, je pense là aussi que, aussi bien dans les coopératives et dans les mutuelles, ce phénomène est extrêmement important. Et je pense que là aussi, je répète, solidarité et responsabilité sont les deux clés fondamentales pour le présent et pour l'avenir.
Alors, vous avez évoqué ces lieux de solidarité, vous avez évoqué également le dévouement, d'une certaine façon, la générosité des Français qui se manifestent en cas de coup dur. Est-ce que ces lieux de solidarité ne pourraient pas être une nouvelle voie pour la mutualité? Est-ce qu'ils ne pourraient pas refédérer une certaine forme, justement, de solidarité, de responsabilité?
C'est-à-dire que la mutualité française, elle est dominante dans les domaines, donc les assurances, de la santé, quoi. Mais il y a peut-être des nouveaux domaines où elle pourrait s'exercer. Par exemple, dans beaucoup de lieux où il y a eu l'ubérisation, il est certain que, moi, j'ai vu récemment, on a vu que, je ne sais plus dans quelle ville, les livreurs cyclistes ont décidé de s'associer. Alors, il y a mille formes d'association, ça peut être. Mais comme ils sont indépendants, ce n'est pas un syndicat qu'ils doivent faire, n'est-ce pas? Donc, ils doivent faire une coopérative ou ils doivent faire une mutuelle. Ils peuvent faire une mutuelle, c'est-à-dire dans laquelle, effectivement, ils partagent leurs risques. Donc, vous avez aujourd'hui tout le secteur énorme des services qui est de plus en plus contrôlé par le parquet. Prenez par exemple le covoiturage. Le covoiturage, est une chose de solidarité spontanée. Donc maintenant, il est pris en main, bien organisé. Bon, mais il est évident que ça relève effectivement de la mutuelle. Une mutuelle de court tirage pourrait se développer. Donc, si vous voulez, il y a un avenir. Vous savez, puisque, comme je l'ai dit, la mutuelle et la coopérative sont nées avec, disons, enfin, ont commencé à se développer avec l'hégémonie du capitalisme et des risques qu'il faisait courir aux humains, et pas seulement à leurs travailleurs. Aujourd'hui, que c'est l'hypercapitalisme et l'hyperprofit, on voit que le champ potentiel des mutuelles s'accroît, parce que la précarité s'est accrue dans beaucoup de domaines, et donc on pourrait voir dans tous ces domaines, il y a aussi des mutuelles d'achat, des mutuelles aujourd'hui de plus en plus que se regroupent des gens pour pouvoir faire leurs achats, ne serait-ce que localement alimentaires. Donc je pense qu'il y a un avenir. Est-ce que ça peut prendre la forme mutuelle, ça peut prendre une autre forme associative, mais tout ça va dans la même direction.
Est-ce que c'est une tendance, ce désir de lien et de vie différente? Est-ce que pour vous, c'est un phénomène sur lequel la mutualité pourrait s'appuyer, effectivement, pour redéfinir son rôle?
Vous savez, il y a effectivement un bouillonnement, depuis déjà pas mal de temps, sans doute dans la carence politique, aussi bien des partis que du pouvoir, il y a des bouillonnements de solidarité un peu dans locale, un peu dans tout le pays, et même beaucoup d'associations comme l'association Colibri, cette association basque dont le nom m'échappe maintenant. Enfin, il y a beaucoup de phénomènes qui sont justement faits pour créer, pour développer, pour la solidarité. Et c'est dans ce vaste mouvement qui est multiple, mais qui se retrouve pas seulement en France, mais dans le monde. Hein. C'est parce que c'est un mouvement de réaction tout à fait naturel à l'emprise croissante de, pas seulement le profit, mais l'anonymat. Vous savez, qu'est-ce qui domine aujourd'hui dans la connaissance politique? C'est uniquement, on traite les humains, on les voit comme des chiffres. Hein, c'est le PIB, c'est la taux de croissance, c'est les statistiques, c'est les sondages d'opinion. Donc plus on sent qu'on devient des objets, plus on sent que les rapports humains se dégradent, plus on veut retrouver quelque chose d'humain. Donc si vous voulez, moi je pense que la mutuelle peut jouer son rôle dans cet essor de la solidarité, qui justement n'a pas trouvé une expression politique, mais peut trouver déjà une expression dans les associations, dans les mutuelles, dans les coopératives, etc. Donc, si vous voulez, c'est dans ce sens-là que je vois un développement futur du mutualisme.
Merci, Monsieur Morin. Vous venez d'écouter ce podcast spécial de l'Institut Montparnasse, podcast sur la thématique de l'avenir du modèle mutualiste. Nous remercions notre invité, Edgar Morin. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre les enjeux du modèle mutualiste.